Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'AB2S, une émission toujours en partenariat avec isnews.fr, le média qui donne la parole aux invisibles. Au programme cette saison, des parcours toujours plus atypiques les uns que les autres. La formule reste la même, un invité, un tête-à-tête, de la confidence, des émotions, des rires, beaucoup de rires, parfois des larmes, hein, vous avez pu les voir la semaine dernière. Mais surtout beaucoup d'apprentissage. AB2S saison 3, épisode 5, c'est parti.
Je suis pas bien, donc la morale tu vas la faire à d'autres. Là je suis pas bien.
Pour cet épisode avec moi, avocate en droit des affaires au barreau de Paris, basketteuse, elle est aussi une voix engagée contre le racisme et le sexisme dans le milieu professionnel. À travers son parcours qu'elle n'hésite jamais à partager, elle inspire et sensibilise sur les réalités du monde du travail pour les minorités. Brillante, déterminée et engagée, elle excelle aussi bien dans les salles d'audience que sur les terrains de basket. Maître Kadiatou Tapili, mon invité, comment ça va ?
Ça va très bien. Alors, brillante, je sais pas, hein, je rate des doubles pas comme tout le monde, j'ai eu pas mal d'échecs, mais ça...
Oui, pour moi, t'es brillante.
Merci, c'est gentil. Je pense que je brille au niveau de la peau, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais merci beaucoup pour cette belle présentation. Bah, je vais très bien.
Je t'en prie. Du coup, on t'appelle Kadiatou, maître, madame Tapili.
Kadiatou, Kadi, même si j'ai pas eu le choix pour Kadi, Kadia, mais maître, je me retourne pas.
Bah, top. Ce que j'ai l'habitude de faire avec mes invités, c'est une fiche d'identité. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ouais. Est-ce que tu es prête à la remplir avec moi ?
Avec plaisir.
Bah, pas, on passe à la fiche d'identité. Alors toi, tu es la fiche d'identité numéro 141-069-22, nom, prénom.
Tapili, j'ai réfléchi, hein. Tapili, Kadiatou.
Pseudo ?
Kadiatap, je crois depuis les réseaux.
Pourquoi Kadiatap ?
Je voulais faire quelque chose de court, voilà, et je voulais pas les trois consonnes, okay. Donc tap.
Du coup, Kadiatap.
Ouais.
Date de naissance ?
Le 28 janvier 1989.
Lieu de naissance ?
Strasbourg, Bas-Rhin, 67.
Profession ?
Avocate.
Passion, hobby ?
Basket.
Est-ce que tu as une citation préférée ?
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
C'est pour ça que tu es venu avec...
Ouais, avec mes enfants cachés, ouais.
Avec,
avec des stagiaires de terminale, ils ont une grosse déter. Donc vraiment merci à eux deux, ils sont formidables.
Ils s'appellent comment ? On les dédicace ?
Ouais, on les dédicace, Alexis et Jacques, Jacques et Alexis.
Ouais, Jacques et Alexis qui sont avec nous ouais. en studio. Lieu de résidence ?
Paris 11e.
Réseaux sociaux ?
Ouais, Insta, TikTok, LinkedIn, Facebook pour les anciens.
Ah ouais, t'es encore sur Facebook ?
Ouais, pour les dates d'anniversaire, pour la famille au Mali surtout. Beaucoup. Okay. WhatsApp, un réseau professionnel aussi.
Ok.
Ouais, voilà.
Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance ? Tu nous as dit que tu es né à Strasbourg, dans le Bas-Rhin.
Ouais, dans le Bas-Rhin, donc frontière allemande. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais moi, j'avais très peu de modèles quand j'étais plus jeune. Je suis issue d'une famille de 5 filles, je suis la 2e sur 5. Ma mère nous a élevées toutes seules. Ma grande sœur est autiste. Et j'étais vraiment la seule noire à l'école maternelle, primaire, collège. Collège en troisième, on était deux. Et après, on était deux pendant tout le lycée, cinq à la fac. Donc, une enfance heureuse, mais sans inspiration, sans modèle, donc compliquée.
Comment ça se passe à la maison avec tes frères et sœurs ? C'est quoi la relation avec tes sœurs ?
Ouais, eh bien, j'ai été responsabilisée très jeune parce que ma mère a divorcé quand j'avais 2 ans. On a appris que ma grande sœur était autiste à peu près à cet âge-là pour moi. Et très rapidement, ma mère a dû se mettre à travailler. Et donc, je suis devenue un peu son co-CEO, comme on dit dans le monde de l'entrepreneuriat. Mmh. Bras droit, et j'ai été responsabilisée très jeune. Et donc, très rapidement, j'étais à côté d'elle pour éduquer mes petites sœurs. Enfin, éduquer, c'est un grand terme, mais pour les garder à la maison et pour être un exemple pour elles, en fait. Et donc, la mission que je m'étais donnée très rapidement, c'est qu'il fallait que ma mère soit fière de moi, être un modèle pour mes petites sœurs, et puis finalement, lutter contre les injustices assez rapidement. Je m'en suis rendu compte.
Quel est le trait de caractère de ta mère que tu retiens ?
L'autorité. Ouais, pour sûr. L'autorité et la déter. Vraiment, il fallait jamais lâcher. Dès l'enfance, elle nous a dit que ça allait être super dur pour nous parce qu'on est des femmes, parce qu'on est noires, parce qu'on est pauvres. Donc, il fallait vraiment qu'on se batte encore plus et que, ouais, qu'on soit les meilleurs partout, quoi.
Okay. Et à l'école, ça se passe comment ? Tu le disais, t'es la seule noire, la seule fille noire de son école.
Ouais, bah, il fallait que je sois une bosse partout, hein. Il fallait que je sois la meilleure partout, que je sois la première de la classe, que... je sois la voix la plus forte, que je sois la plus grande. Alors, je me suis rendu compte que dès le CP, j'étais pas la plus grande. Et ouais, qu'il fallait que je me fasse respecter. Et donc, ouais, j'étais là, quoi.
C'est dur d'être la seule enfant noire ?
Tu t'en rends pas compte ? Tu réalises pas ? Alors si, les gens te le disent, les enfants te le disent, mais en fait, t'as tellement eu un mindset où tu savais qu'il fallait être plus forte que tout le monde parce que t'allais plus galérer que les autres, qu'en fait, c'est pas dur, c'est que t'as pas le choix, en fait.
Et ça se manifeste comment, comment on te montre que t'es différente ? Est-ce que c'est par des remarques, des réflexions ?
Grosse remarque, hein, ouais, t'es sale, ton ouais. Nom, ouais, ouais. Oui, ça, c'était la maternelle. Genre, t'es sale, pourquoi seulement l'intérieur de tes mains est blanc et ben le reste t'es pauvre parce que tu viens d'un quartier, quoi d'autre tes parents sont pauvres parce que t'es noir, tes parents n'ont pas fait d'école, des choses comme ça. Tu t'appelles Kadiatou, t'as la grande usine Kadi qui se trouve à l'époque en Alsace, le siège, okay. Les chariots. Mon père y travaillait jusqu'à sa retraite. Et donc, beaucoup ont pensé que parce qu'il travaillait chez Kadi, il m'appelait Kadiatou, alors que ça n'a rien à voir. Pendant très longtemps.
Absurde, ouais.
Ouais, pendant très longtemps, j'avais honte de mon prénom. Et j'avais même honte du fait que ça finissait par OU à la fin. Et genre, jusqu'à mon arrivée à Paris, jusqu'à 25 ans, je disais à tout le monde m'appelait Kadia et pas Kadiatou, en fait. Donc, ouais, on te faisait vraiment remarquer la différence. Et donc, plus j'ai grandi, plus je me suis rendu compte que c'était super dur d'être la personne que j'étais, malgré le fait que j'étais la première de ma classe, que j'étais déléguée de classe, que j'étais assez grande, assez imposante, que j'avais du charisme, du caractère, etc. Je me sentais pas bien.
Et ça se manifeste qu'entre élèves ou il y a aussi le corps professoral qui te fait ressentir cette différence ?
Non, le corps professoral, justement, il me mettait toujours en avant. Ouais. Par exemple, je sais qu'en CE1, je faisais exprès de faire des fautes en maths. Et ma maîtresse voyait que je gommais alors que j'avais la bonne réponse. Et elle m'avait déjà dit à la fin d'une classe, fin d'une journée, mais c'est pas grave d'avoir tout le temps tout juste, c'est bien au contraire. Ou je faisais exprès de ralentir parce que je voyais que j'étais plus rapide que les autres. Et donc non, elle me mettait beaucoup en avant. Et ça, c'était en CE2, ça m'avait vraiment étonnée. C'est que ma maîtresse, je vais pas faire chaque année, je vous rassure. Ça m'a pris 52 minutes. Non, mais en fait, en CE2, ouais, ce que disait ma maîtresse, c'était elle me corrigeait toujours en premier et elle m'utilisait comme modèle pour toutes les autres fautes des autres personnes de la classe. Donc non, au contraire, on mettait toujours en avant. J'avais même le droit en CM1 et après, je vous promets, je ne fais pas chaque année. J'étais revenue du Mali et mon instituteur avait fait une exposition sur l'Afrique de l'Ouest. Et donc moi, vu que j'allais plus vite, j'avais la chance de présenter l'exposition à toutes les classes de l'école primaire, en plus d'être en classe, mais vu que j'allais vite, j'avais le droit de faire les deux en même temps. Donc voilà.
Du coup, ça rééquilibrait aussi un peu avec ce que tu vivais ou pas du tout ?
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le fait que tu sois pris en exemple par les professeurs, que tu sois mis en avant ?
Pas du tout.
Ça te...
Non, je ne m'en rendais même pas compte. J'étais, ouais, c'est normal, j'ai des bonnes notes, donc c'est cool. Et encore, je ne me disais même pas, c'est cool. C'est juste... ouais, c'est ok, mais en fait, c'était plus les remarques des autres élèves que
Ouais. Surtout à cet âge-là. Ouais. Quoi. Et quand on rentre à la maison, on en parle avec maman, avec les sœurs ?
Pas du tout. Non, parce qu'il fallait que je sois un exemple. Et quand j'avais 19 sur 20, moi, je pleurais.
Ou quand j'avais... Il fallait avoir 20.
Il fallait avoir 20, même en sport, même en patinage. Il fallait avoir 20. Parce qu'il y avait Souria Bonali déjà, donc c'était notre modèle. Et puis non, il fallait être fort tout le temps et j'avais peur d'essayer ma mère. Donc non, on ne parlait pas du tout de tout ça.
Ok. La relation avec ton père, on peut en parler, pas en
Bien
parler
sûr, on peut en parler. On peut en parler. Mon père était très présent jusqu'à mes 5 ans. Où en fait, il venait... il habitait encore chez nous malgré le divorce de mes parents. Et puis après, il est parti en foyer pas très loin de chez ma mère. Et donc, il m'a beaucoup appris l'indépendance et la débrouillardise. On faisait quand même beaucoup de trajets dans les transports en commun. Et donc, de sorte où j'ai pu aller toute seule à l'entraînement basket quand j'étais plus âgée, c'est-à-dire vers 11 ans. Ou me déplacer dans la ville toute seule, quoi. Et ça, c'est mon père qui me l'a appris. Puis après, il était un peu hors la photo jusqu'à la fin de mon adolescence. Puis après, il est revenu. Mais il n'a jamais habité très loin de chez ma mère. Là, il habite à 100 mètres.
Et le collège, comment ça se passe ? Pareil, élève au-dessus du lot ou...
De moins en moins. Alors jusqu'en troisième, oui. Mais l'adolescence arrivant, les garçons arrivant, c'est comme ça que j'ai commencé le basket. Hein.
Ouais, l'âge
de 11 ans, je suis amoureuse d'un mec.
C'est ce que tu dis dans une interview.
Ouais, je dis tout le temps et chaque fois, je lui mets un peu la honte. Quoi. Je ne dis pas son prénom
Vous êtes encore
interview.
En contact
Ouais, de temps en temps, Facebook sert à ça, hein, pour les gens un peu vieux comme nous. Non, je rigole. Mais ouais, on est encore en contact. Et en vrai, c'est là où j'ai appris que j'étais pas jolie au vu des autres, en fait. Que je correspondais pas au cadre. Et donc, j'ai commencé à complexer. Parce qu'on m'a dit que j'étais drôle, j'étais sympa, etc. Mais que j'étais noire. Et le mais, moi, ça m'a fait énormément de mal. Et donc, j'ai commencé à être un peu vraiment une boulie. Donc, à faire souffrir les gens. Parce que je souffrais avant tout.
Ouais, tu dis qu'un rejet de tes origines. À cette époque-là, non seulement je ne cherche pas de lien avec mes origines, mais jusqu'à mes 26 ans, je rejette complètement ce lien-là.
Ouais, je rejette mes origines sociales, géographiques et raciales. Clairement, je suis allée au Mali quand j'avais 16 ans, donc on est en seconde. J'avais l'impression à l'époque que c'était le pire séjour de ma vie, de sorte que j'ai fait en sorte de l'écourter en disant à ma mère que je voulais faire un stage pour rattraper mes lacunes en maths. Via le CNED, et donc je suis rentrée plus tôt. Mais en fait, avec du recul, en plus c'est la dernière fois que j'y suis allée, c'est avec un grand regret, donc, parce que c'était magnifique en fait, mais c'est juste que j'avais l'impression d'être loin de mes copines, que j'étais dans un pays pauvre, etc. quoi.
Et il y avait même ce sentiment de supériorité un peu, c'est ce que tu dis aussi dans l'interview que j'ai lue, où tu te sens un peu supérieur aux autres.
Ouais, complètement. Bah, c'était ma carapace en fait, j'avais besoin de montrer que j'avais des grosses épaules, que j'étais au-dessus, alors qu'au final, à l'intérieur, je me sentais très inférieure.
Et tout ça, on n'en parle avec personne. C'est toujours...
Personne. C'est moi-même. Vraiment, et j'en parle avec personne.
Et à cette époque-là, pareil, dans ton entourage, t'as pas des amis qui te ressemblent, entre
pas
guillemets
du tout. Pas du tout. Au contraire, il y a une deuxième noire qui arrive en troisième dans mon collège privé. Mmh. Elle s'appelle Olivia, avec laquelle je suis toujours en contact. Et en fait, elle est... la noire dont on a tous rêvé quand on était plus jeune, c'est-à-dire déjà un peu plus claire de peau, parents issus du monde diplomatique, enfance dont on rêve, son père habitait à Paris, etc. Et puis toi, tu te rends compte que tu es dans un quartier, que ta mère t'élève seule, qu'elle est femme de ménage, chose que j'occulte complètement. Mmh. Dont je mens complètement, quand elle m'emmène à l'école, par exemple, avec une vieille Seat Ibiza qui date des années, je lui dis de me déposer plus tôt, parce que j'ai honte de la voiture, etc. quoi. Donc, très compliqué.
Et il arrive quand le déclic, j'ai cru comprendre, c'est il y a un moment où tu te poses des questions sur ta personne et tu veux faire de la chirurgie esthétique, éclaircissement de la peau, etc. Ouais. Vu que tu parlais de ta copine Olivia, qui est claire de peau.
Ouais, alors je crois que la première limite, ça a été ma mère m'a dit « tu peux faire tout ce que tu veux ». La couleur de peau, si tu veux l'éclaircir, tu peux aussi. Et là, je me suis dit non, ça vaut pas le coup. Et ça, c'était un peu inconscient quand même. J'avais trop peur des risques. Mais là où j'ai un gros déclic, c'était à 28 ans. Hein. En fait, c'est quand j'ai prêté serment et je suis devenue avocate. Je me suis dit, ça y est, j'ai coché toutes les cases pour ma mère et mon père, qui revient dans la photo clairement quand j'ai prêté serment. Parce que là, forcément, ma fille, elle est avocate.
Ouais, qui va donner ton numéro. Famille.
Ouais, il y a des gens, ils m'ont appelé. J'ai dit, mais vous êtes qui? Alors que rien à voir avec mon domaine. Et c'est là où je me suis dit, je suis celle que je suis. Et bon, en fait, c'est arrivé par strat. Hein. Quand je suis arrivée à Paris, quand j'avais 24 ans, du coup, j'ai commencé à faire une première coupure avec Strasbourg. Je me suis dit que c'est un nouveau départ. Et je me suis dit que l'issue, elle était de plus en plus proche et de plus en plus belle. Au pire du pire, je suis juriste en entreprise. J'ai un métier stable. J'ai un bac plus 5. Mes parents seront quand même contents. Et après, à Paris, je vois de plus en plus de semblables. Et c'est comme ça que le déclic vient petit à petit,
Et on dit quoi une petite fille qui est peut-être dans la même situation que toi aujourd'hui? Ça arrive peut-être de moins en moins aussi avec le fait qu'il y ait de plus en plus d'enfants issus de l'immigration aussi et que les écoles elles sont un peu plus mixtes. Mais il y a, comme tu le dis, il y a des endroits en France où finalement il n'y a pas de. Tu vois qu'une seule personne.
Bien sûr. Parce
que comme nous on est à Paris aussi, on n'a pas cette vision.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Élargie de la France, on dit quoi une petite fille qui est dans la même situation?
Eh bien, de parler déjà. De ne pas avoir peur de ses parents parce que ses parents, dans tous les cas, ils seront là pour toi. Moi, je sais que j'ai eu peur à cause de la culture de mes parents. Clairement, ils sont arrivés du Mali il y a une quarantaine d'années. Ça arrive encore, je pense, des parents qui viennent de leur pays d'origine et qui n'ont pas la même culture. Mais il ne faut pas avoir peur, malgré tout, de leur parler, d'avoir des émotions. Ma mère, pendant des années, elle m'a dit « vous pleurez pas ». À mes petites sœurs et moi, on ne pleure pas. Mmh. Aujourd'hui, elle voit que je pleure tout le temps. Ma mère se met à pleurer aussi. Et aussi de se faire confiance. Et si elle n'ose pas parler, cette petite ou ce petit, parce que ça va dans les deux sens, surtout que les petits, on leur dit souvent « t'es noir, tu dois être fort en sport », des gros clichés comme ça, qui existent encore, ben d'écrire, d'écouter des podcasts, aujourd'hui il y en a, d'aller sur les réseaux sociaux, mais pas de voir n'importe quoi. Voilà, je dirais tout ça.
Et tu le disais, parler, toi tu fais le choix de parler à un professionnel.
Ouais.
C'est un choix qui est encore tabou.
Ouais.
Comment tu entreprends ce choix-là et comment ça se passe cette démarche?
Ah bah la démarche était très rapide, hein. Il fallait que je me mette en arrêt de travail parce que je voyais que ça n'allait plus. Et donc l'arrêt de travail est donné soit par un médecin généraliste, soit par un psychiatre. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé à me faire accompagner. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que j'étais dans un endroit où j'étais en confiance, qu'il n'y avait pas de jugement et que l'approche était scientifique. Donc je me sentais bien. Puis après j'ai commencé à creuser dans ce milieu psychologique, psychiatrique, non peut-être pas si psychiatrique, on n'est même pas là, mais en tout cas avec un psychiatre, et il y a plusieurs accompagnements possibles, et moi j'ai fait des liens avec mon enfance. C'est comme ça en fait que je me suis rendu compte de la rencontre entre la petite Kadiatou et la Kadiatou à 29 ans.
Et c'est quoi ton impression quand il y a cette rencontre? C'est quoi ta réaction à ce moment-là?
Que j'ai été dure. L'exigence que je me suis donnée, ça n'a pas changé, je suis toujours exigeante, mais je suis en connaissance de cause et quand je le réalise, eh ben, j'essaie de lever le pied en me disant ça va, il n'y a pas mort d'homme. Mais complètement, je me disais, mais j'ai été folle de mettre autant d'obstacles, autant de limites, autant de barrières, parce qu'en fait, elle devrait être fière d'elle. Et ça y est, enfin ça y est, elle a réussi. Mais en plus, elle a réussi en étant entièrement détruite. Donc c'est bon, maintenant, il y a toute la vie. Généralement, une femme peut vivre jusqu'à 90, 95 ans. Bah, on a fait les premiers tiers. Les deux tiers, il faut kiffer, en fait.
Quelle a été l'importance du basket dans tout ça, dans tout ce parcours
Bon, outre le fait que ce jeune homme est sorti avec une autre fille de mon équipe et que j'ai eu d'autres râteaux dans le monde du basket, c'était vraiment la première fois de ma vie où on me reconnaissait pour d'autres capacités qu'intellectuelles. J'étais super, super choquée quand j'étais en minime, donc maintenant en U15, d'être sélectionnée en équipe première. Pour moi, j'allais toujours être en équipe 2 ou en équipe 3, les équipes des nuls, entre guillemets. Et en fait, on a commencé à me faire confiance au basket. J'ai commencé à m'exprimer au niveau du basket. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu des gros soucis aussi d'un point de vue confiance à cause du basket parce que je me rendais compte que je prenais trop de place et que ça ne plaisait pas à tout le monde. Mais ouais, ça m'a permis de me consolider, d'être celle que je suis aussi au quotidien. Sans le basket, je ne serais pas là aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a au moment où tu fais du basket, il y a cette volonté de devenir professionnel ou c'est vraiment un exutoire pour toi et c'est quelque chose que tu fais comme passion en dehors de l'école?
Au début, c'était un exutoire, j'y étais tous les jours. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais du niveau. Donc évidemment, avec d'autres filles de mon équipe qui partaient en sport études au lycée, j'ai dit à ma mère, est-ce que je peux y aller? Elle m'a dit jamais de la vie et j'étais d'accord. J'ai même pas essayé de batailler parce que j'étais la première et donc je me suis dit, il faut que je monte l'exemple. Et je pense qu'indirectement, je me suis dit, j'ai pas le choix, quoi. Et puis, c'est surtout que ça a été un rythme entre l'école et le basket et la famille. Enfin, bah, le basket, pour moi, est devenu une famille. Et je savais que je pouvais travailler au basket, que j'allais me faire accompagner aussi, quoi. C'est chaque fois le basket qui m'a sauvée tout le temps.
Il y a le métier d'avocate?
Ouais.
C'est à quel moment que tu sais que tu veux faire ce métier-là? Souvent, ceux qui viennent sur ce plateau, ils me disent qu'on est petit, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Ça arrive tard, ça arrive même après le lycée.
Ouais.
Toi, déjà en troisième, on sait qu'il y a le choix pro-général. Toi, tu savais déjà où t'allais?
Ah non, mais alors moi, je suis née le 28 janvier 89. Je pense que le 29 janvier, ma mère, la première chose qu'elle m'a dite, c'est tu seras ou avocate ou médecin. Là, j'abuse.
Ah oui.
Mais en fait, j'ai grandi avec cette idée-là. Et donc, j'ai juste pas eu le choix. Enfin, ouais, j'ai pas eu le choix. Et je pense qu'un jour, je lui ai dit que je voulais travailler dans la mode parce que j'aimais bien ça. J'aimais bien... Moi, je voulais devenir une star quand j'étais petite. J'étais fan de Michael Jackson. J'étais inscrite au club Barbie. Les Miss France, c'était ma passion. Et je me suis dit, moi, je veux devenir une grande star. Après, bon, bah, Destiny Child, Rihanna, etc. J'ai eu la chance, en plus, de faire un voyage aux États-Unis au lycée grâce à la bourse, etc. Et en gros, j'ai pas eu le choix du tout. Hein. Donc, j'ai fait un bac scientifique où j'ai galéré comme jamais. J'ai eu 10-0-0 au bac, j'ai redoublé ma seconde. Et ma mère m'a dit, tu feras un bac scientifique et c'est tout. ES, donc économique et social pour ceux qui nous écoutent, et littéraire, archi nul, c'est pas la peine.
Ouais, l'élite, c'est...
Ouais, c'est bac scientifique, comme c'est ça, S. Tu fais ce que tu veux. Et tu feras une prépa médecine en terminale. Et en fait, je me suis dit que je ne pourrais jamais être médecin. Et donc, je suis allée en droit parce que je voulais rassurer ma mère, quoi.
Mais est-ce que ça te plaît quand même un peu à ce moment-là ou c'est... Ou t'apprends à aimer aussi ce métier avec le temps?
Très inconsciemment, je me suis dit, de toute façon, j'avais pas de choix. J'étais née et née pour ça. J'allais dire née et conçue pour ça. Conçue, c'est un peu trop. Mais j'ai été née pour ça. Je devais faire ça, je me disais. Et donc, même si ça me plaisait pas, je l'aurais fait pour ma mère, dans tous les cas. Parce que je voyais quand même sa souffrance au quotidien. Et j'aimais beaucoup l'histoire. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, vu l'ambition que j'ai et je voulais être la meilleure partout, on est à Strasbourg, il y a ce qu'on appelle l'ENA, l'École Nationale d'Administration. Donc, tant qu'à faire, je vais faire l'ENA. Et tant qu'à faire, je vais être préfet. Tout va bien. Et après, je vais finir en politique. Comme ça, je suis une boss.
C'est tout. T'avais des ambitions politiques, ça veut dire
Ouais, mais juste pour ma mère, en fait. Moi, j'en avais rien à faire. C'était vraiment... c'était affilé tout droit, quoi. Et puis, au fur et à mesure de la fac, c'est là où j'ai commencé à découvrir plusieurs matières. J'aime beaucoup le droit parce que c'est la vie de tous les jours. Et en fait, je me rends compte que l'ENA, c'est pas du tout ce que je vais faire. Il n'y a pas de débouché. Et puis, c'est pas des personnes de terrain, selon moi. Donc, c'est comme ça que je me suis tournée vers le droit des affaires au fur et à mesure. Mais...
Et c'est quoi que t'aimes dans le droit des affaires? C'est quoi qui t'exalte?
Ouais, parce que généralement, le droit des affaires, tout le monde dit... Mais...
Ouais, ça a l'air tout... Ouais. Les gens vont plutôt vers le pénal, enfin, ouais. Tout ce qui est...
Alors, moi, j'ai fait un peu par élimination pénale. Je me suis dit, je viens d'un quartier où je sais qu'il y a du pénal, ça me saoule. Je veux pas, ressembler aux personnes qui font du trafic de stup ou défendre ces personnes parce que c'est des comportements que je ne cautionne pas. Parce que c'est la facilité, ça m'énerve. Ça, c'est vraiment la première chose. Droit à la famille, j'ai une histoire familiale dont je ne parle très rarement, mais qui fait que je ne ferai jamais droit à la famille et que je suis beaucoup trop sensible pour ça. Le droit des affaires, c'est au milieu pour moi. C'est de l'argent. Donc, je sais que je gagnerai de l'argent et donc mes parents seront contents. Je vais pouvoir faire comme eux, envoyer au pays. Alors finalement, je ne fais pas du tout. Mais au moins, ils seront rassurés. Je serai stable financièrement. Et puis, c'est tout... toutes les épiceries que je vois dans mon quartier, les donneurs kebab, qu'on appelle ici des crèques, comme j'ai cru comprendre, les petits magasins, etc. Et bon, ils ont dû se faire accompagner pour créer leur boîte. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça, c'est un milieu entre les deux. Il y a de l'humain parce qu'on part juste d'une idée et c'est des personnes qui n'ont pas forcément fait d'études. Et il y a le côté financier où on s'occupe de leurs finances aussi juridiquement. Et c'est comme ça le droit des affaires, en fait.
Et aujourd'hui, ça te passionne, c'est quelque chose que t'aimes?
C'est exactement ce que je fais aujourd'hui, mais je suis passée par des grosses embûches. J'avais quand même une grosse partie de moi jusqu'à mon burn-out à 29 ans, où il fallait que je sois la boss partout, donc il fallait que je fasse les plus grosses boîtes. Et donc, moi, j'ai fait mes stages de fin d'études chez Air France KLM, chez Hermès. J'ai commencé à enseigner à Assas, donc la plus grande fac de France. Et puis après, j'ai commencé en cabinet américain chez Dentons. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, t'as beau avoir 90 000 euros par année, c'est pas du tout ce qui me ressemble. Et représenter des dirigeants qui gagnent 4 millions d'euros par année, c'est pas trop ma DA, quoi. Mes parents gagnent à peu près 1000 fois moins, moi aussi. Donc non. Donc voilà.
Et quand t'arrives dans ce milieu, comment t'es accueilli par les autres de la profession? Par la profession en général, hein, vraiment, ouais. Les greffiers, les tribunaux, tout le monde, comment
Alors,
on t'accueille
En entreprise, génial, parce que c'est des grosses entreprises qui... Air France KLM, il n'y a pas de sujet. On est dans le monde aérien, donc justement, sois fier d'être noir. De toute façon, tu resteras noir, donc kiff. Sois celle que tu es, exprime-toi. Ça, très bien. En cabinet, beaucoup plus compliqué, parce qu'on est à l'époque de l'ère Obama en droit américain. On est à l'époque aussi de Murder en termes de série, on est à l'époque de Michelle Obama, de Scandale avec Olivia Pope, donc il faut leur ressembler, donc tissage, tailleur gris, noir, etc. Et moi, j'ai commencé à mettre du wax à ce moment-là, et donc c'était, mais on n'est pas à carnaval ici, donc tu t'habilles un peu comme tout le monde. Les traits, j'ai commencé à en faire, pareil, c'était pas accepté. J'ai un collègue avec qui je m'entends toujours bien aujourd'hui, mais la première fois qu'il m'a parlé, c'était... Ouais, moi, j'ai fait une année à Washington. J'adore les Noirs, alors que le mec est blond aux yeux bleus. Et ça commençait les clichés du genre... moi, mon rêve, c'était d'être noir quand j'étais plus jeune. Les choses comme ça, mais dans le plus grand des calmes. Et en fait, la personne ne se rend pas compte que c'est des grosses dingueries. Il a grandi dans le 16e, donc il est trop bien parce que j'ai sa caution noire et tout. Bref. Donc ça, c'était par les collègues. Ceux qui ne me connaissaient pas encore ont cru que je faisais partie de la direction des systèmes d'information, mais aussi assistante d'une des personnes de mon équipe, mais aussi femme de ménage, c'est arrivé. Et puis après, dans les tribunaux, je pense que ceux qui m'écoutent savent que oui, on m'a pris pour tout sauf une avocate. Mais moi, je ne m'en étais même pas rendu compte que c'était... Si, je me rendais compte que c'était une dinguerie quand même. Mais je savais pas que ça allait choquer autant de personnes. Parce que moi, j'ai tellement eu l'habitude de grandir avec ça,
oui, mais...
que pour moi, bah, c'était normal, quoi.
Est-ce que ça remet en question le fait que tu fasses ce métier? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bah, peut-être qu'il faut que je quitte ce métier-là ou pas du tout? Il y a aucun
non,
moment
au
où...
contraire. Au contraire, c'est là où j'ai commencé à me dire, non, mais on est où là, en fait? Quand j'ai eu j'ai eu deux arrêts de travail en 2017. Le premier, c'était entre Noël 2016 et ma prestation de serment janvier 2017, où là, ça n'allait pas du tout. J'étais un vrai légume et là, il fallait vraiment que je me sevre. J'ai prêté serment en arrêt de travail. Je suis revenue la semaine d'après, en février 2017, au sein de mon cabinet. Et là, on m'a dit, mon boss m'avait dit... ouais, on ne pense pas que tu es faite pour la profession d'avocat ou sinon que tu fasses une partie pour les nuls chez les avocats où tu fais systématiquement la même chose, c'est du travail à la chaîne et au moins, bon, tu ne te prends pas trop la tête, ce sera dans tes capacités intellectuelles, grosso modo. Puis moi, je cherche en parallèle parce que je me dis, je ne vais pas quitter la profession, ma mère ne m'a pas éduquée comme ça, il ne faut pas que je lâche, quoi. Et donc, j'ai pas mal d'entretiens et mon associé ne comprend pas pourquoi j'ai autant d'entretiens. Et du coup, il me dit, de toute façon, t'as pas fait de faute, mais il faut que tu partes. Et de toute manière, t'as pas eu la chance que ma nièce, qui a été adoptée aussi du Mali, d'avoir été adoptée par une famille européenne. Donc, de toute façon, tu t'en sortiras pas. Et n'oublie pas ce que t'as pu apprendre, en seconde, c'est que 95% des enfants font le même été que leurs parents. Donc, il serait mieux que tu sois soit femme ménage, soit ouvrier, ou que tu retournes dans ta case au Mali, quoi. Et là, j'étais, non mais on est où, en fait? Et c'est là où j'ai explosé en plein vol et j'ai dit, mais jamais de la vie, je quitterai la profession. Enfin, si je la quitte, c'est juste pour moi, parce que je l'aurais choisi, mais sûrement pas pour une personne qui est au demeurant, pour moi, nulle, qui m'apprend des leçons, quoi. Et donc... Donc, je n'ai pas quitté la profession et aujourd'hui, je suis très épanouie. La magistrature, donc le fait d'être juge, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas faire encore plus mal?
On te le souhaite.
Tu bouges quand même tous les deux ans et me retrouver, autant dans les grandes villes, c'est OK, mais me retrouver dans la Creuse en étant la seule avocate, la seule juge noire... Flemme.
C'est un autre
pas...
combat encore. Ouais.
Je sais que je fais de l'influence engagée, je suis contente de ça, je raconte mon histoire, mais je suis pas Rosa Parks en fait. Enfin, elle a pris ce chemin-là. Moi, je pense que j'ai un peu la flemme pour l'instant.
Bah, peut-être que ça viendra aussi
avec le temps.
Mais c'est déjà beaucoup ce que tu fais là actuellement. On le disait en intro d'émission, tu es venu avec deux stagiaires à toi.
Ouais.
Je suppose que tu reçois pas mal de stagiaires. Qu'est-ce que tu leur dis à ces stagiaires-là qui veulent rentrer dans ce domaine de métier ou dans un autre domaine de métier où on leur dit tu peux pas parce que tu es noir, tu peux pas parce que tes parents ils font telle ou telle profession. Toi, tu leur dis quoi à ceux-là?
Qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Dans tous les cas, ils y arriveront. En fait, on a tellement grandi avec des stéréotypes, des galères au quotidien, qui sont prêts. Ils sont prêts pour tout. Ils ont tellement, dès l'enfance, peu importe là où ils ont grandi, ils ont eu des difficultés. Et je pense que de toute façon, chaque enfant a une difficulté, qu'il soit blanc, pas blanc, on va dire ça comme ça. Donc, qu'il exauce tous ses rêves, il va y arriver, il n'y a pas de raison. Et donc, en fait, je leur dis beaucoup, beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je montre juste mon quotidien. S'ils kiffent, tant mieux. S'ils ne kiffent pas, au moins, ils sauront qu'ils ne veulent pas devenir avocat. Mais en tout cas, moi, je leur montre sous toute leur couture.
Est-ce qu'on peut parler de ton arrivée sur Paris?
Ouais, franchement, découvert des Noirs, hein, comme je dis. j'arrive en 2013, juste avant. Donc, j'ai mon Master 2 que j'ai à Strasbourg et je fais quelques mois à Montpellier. Pour une spécialisation en droit et société, j'arrive avec un emprunt de 25 000 euros, donc business plan ultra ficelé. Pendant 5 ans, j'ai ces 25 000 euros, puis après, je dois commencer à rembourser. Donc, je me dis qu'il faut que j'ai mon barreau du premier coup. Beaucoup de difficultés, mais j'ai adoré mon arrivée. Déjà, je suis arrivée par la gare de Lyon, où il y avait un bus qui allait directement dans le 18e. Et donc, en fait, il y avait plein de noirs dedans.
Il y a le 31, je crois.
Ouais, il y a le 31. Moi, je prenais le 65 à l'époque. Et en fait, j'étais... Waouh, mais même là, quand j'en parle, ça me donne des frissons. Vraiment, en plus, avec la tenue qui va avec, des grands Dakar, le petit chapeau qui est au-dessus pour les hommes, qui est tellement élégant. Et je me dis, mais en fait, je suis à la maison là. Enfin, même si ça va vite, parce que moi, déjà, je parle très vite et je suis hyper active. Donc, en fait, je me sens dans le bain, le monde qui va dans tous les sens, ça court partout et tout. Donc, je me sens très bien. Et après, je me rends compte assez vite de la réalité. Hein. J'ai une sous-location qui m'a été trouvée par un pote dans le 11e à Oberkampf. On est pendant la période du Ramadan. On n'est pas très loin d'une mosquée, je pense, dans le 11e. Et en fait, cette beauté par rapport au Ftour et à l'Iftar, de voir toutes ces personnes, je me sens bien. Mm-hmm. Je me sens à la maison, même si je me rends compte que pour 20 mètres carrés, je paye 700 balles quand même. Là, je me suis dit, ça, c'est chaud.
Bienvenue à Paris.
Ouais, bienvenue à Paris. Et puis après, quand même, les premières difficultés arrivent parce que je suis en prépa d'école d'avocat, enfin, de préparation à l'examen d'entrée à l'école d'avocat dans le 6e. À Saint-Germain-des-Prés, et là, je suis avec que des personnes qui étaient à Assas, la Sorbonne, on a les marques de partout. Même si j'avais grandi avec la bourgeoisie strasbourgeoise, ça n'a rien à voir avec la bourgeoisie parisienne. Je me lie d'amitié avec un mec qui s'appelle Axel, qui est aussi... ses parents sont alsaciens, qui habite dans le 5e, et avec qui il avait une voiture décapotable. J'étais, oui, je suis où là? Je suis pas du tout dans mon élément, et j'en ai marre de me travestir, en fait. Et puis, c'est surtout à la recherche d'appartements. J'ai tellement galéré pour trouver un appart. Ça m'a angoissée. Vraiment, j'ai cherché dans toute l'Île-de-France. Moi, je ne voulais même pas être spécialement à Paris. J'essaye de faire en sorte de trouver mon stage d'école d'avocat tout de suite, même avant de rentrer à l'école d'avocat. Je me retrouve chez Air France KLM, où je me dis, mais en fait, Air France KLM, il y a quand même 95 000 salariés. Qu'est-ce que je fous là et tout. J'ai eu tellement peur, je suis arrivée avec un retard d'une heure et je me suis dit, je ne vais pas y aller, en fait. Et même après l'entretien, que c'était bien passé, j'ai pas rappelé parce que je me suis dit, mais en fait, je mérite pas ce poste. Et bref, tout ça pour dire que finalement, j'ai pas mon barreau. Je suis en PLS. Je me dis, j'ai tout raté. J'ai pris un emprunt que j'ai dû devoir rembourser plus tôt que prévu. Enfin, c'est la descente aux enfers. Les appartements, je galère parce que je commence à me prendre des réflexions du style, non, mais en fait, vu que t'es noir, je veux pas que tu aies un appartement meublé chez moi parce que les noirs, on sait qu'ils sont sauvages et que mon lit va être cassé. C'est une meuf qui m'avait dit ça d'Enfer Rochereau. Je vais dans des agences et on me dit non mais franchement en fait vu que vous êtes noir vous n'allez pas trouver d'appartement même si vous avez les meilleures cautions de la terre et je finis par trouver Avenue de Rue Rollin où c'est un avocat homme politique et là je me dis un signe bref et en fait le mec a le même âge que moi mon propriétaire mais il est propriétaire de 3 immeubles et là je me dis ah ouais on n'a pas la même vie et en fait il a eu vraiment pitié de moi je pense et j'avais des cautions et tout hein, mais du coup j'ai habité dans le 12e pendant 5 ans.
Est-ce que le fait d'arriver à Paris, tu le disais, tu vois ses grands-papas, etc., que ça te reconnecte un peu aussi avec tes origines?
Complètement. Pour moi, c'était... D'abord, j'étais dans une enquête exclusive. J'étais Bernard de la Villardière du Bled.
Le fameux Bernard.
Vraiment Bernard. Et en fait, j'étais vraiment bien. Je me suis dit, mais quelle fierté. Pendant les années, quand je venais à Paris de temps en temps, parce que je venais à Paris en mission faire des tissages à Châteauroux et à Château d'Eau à l'époque... J'avais honte quand les racoleurs, ils me parlaient et tout. Et là, je discutais avec eux, je discutais avec les coiffeuses et tout. Elles me racontaient leur quotidien. Et j'étais, mais en fait, moi, je suis trop bien. Enfin, pourquoi je me pose des questions? J'ai déjà un master 2, je vais rentrer à l'école d'avocat. Et quand j'étais à l'école d'avocat, c'était pareil. Ma première cliente, c'était une coiffeuse de Château d'Eau. J'ai aidé sa fille en maths jusqu'à la fin de l'école d'avocat. Et en fait, j'étais dans mon élément. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sophie, qui a la marque Minoy's Shop. Et jusqu'à présent, je continue à être avec elle. Alors, Sophie, complètement différent. Elle a grandi à Paris, lycée dans le 3e, etc. Elle était styliste avant, sa sœur est avocate. Mais en fait, elle est fière de ses origines. Et c'est comme ça aussi que j'ai connecté avec mes origines.
Mais paradoxalement, Paris, ça te connecte avec tes origines. Mais je crois que, pareil, dans la même interview, je lis, ça t'éloigne aussi un peu de tes sœurs.
Ouais.
Parce que, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
Ouais, bien sûr, ça m'éloigne de mes sœurs parce que du coup, j'ai juste plus envie de... Enfin, c'est pas que j'ai plus envie de rentrer à Strasbourg, mais là où quand j'étais à Strasbourg, je vivais pour ma mère et mes sœurs, à Paris, j'ai appris à vivre pour moi. Et pour moi, il fallait que j'aie cette protection et cette coquille où il fallait que j'ai... Ouais, que j'ai clos. Pardon.
Que je ne sois pas ce que j'ai clos.
Ouais, que j'ai clos. Et que je naisse, en fait. Là où, quand j'étais à Strasbourg, vraiment, j'étais sous le prisme de ma mère, sous le prisme de mes sœurs. Et donc, il fallait que je sois moi-même. Et donc, c'est comme ça que je me suis éloignée de mes sœurs. Mais c'est un éloignement, finalement, qui, pour moi, a été bénéfique pendant un temps. Parce que je sais que mes sœurs, je leur parlais comme si c'était mes filles. Et aujourd'hui, bah, c'est des vraies sœurs. Et même si on a nos vies quotidiennes et qu'on ne se parle pas tout le temps, bah, en fait, on est toujours là l'une pour l'autre.
Ouais, souvent, ça fait du bien aussi d'être éloigné un peu de...
Ouais, ouais, et penser à soi avant tout.
Le Mali, tu disais la dernière fois que tu y allais, tu avais 16 ans.
Ouais, donc ça fait 20 ans, là.
Ouais, il n'y a pas eu d'envie d'y retourner.
Si, de... bien sûr. Sauf que, bon, bah, les difficultés quand même politiques au Mali... Ouais. Moi, mes parents viennent de Bandiagara, donc on est frontière burkinabé. Et bah, on sait que depuis une dizaine d'années, c'est un peu compliqué. Mmh. Je devais y aller en 2017, mais mon associé de l'époque m'avait dit non, il est hors de question que tu y ailles, en fait. Parce que j'ai besoin de toi sur, au cabinet, alors que franchement, parfois, je ne travaillais pas de 9h à 19h. Je faisais de présentéisme et il me donnait des trucs le soir, juste pour, bah, pour me faire la misère, en fait, j'ai l'impression. Et donc, ouais, ça me manque beaucoup. J'ai vraiment envie d'y retourner. Du coup, en parallèle, j'ai commencé à faire mes premiers voyages solo au Sénégal pour reconnecter avec mes origines ethniques peules. J'ai aussi fait ça en Côte d'Ivoire, où j'étais toute seule. Et puis, ouais, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à connecter. J'ai connecté aussi ici, à Paris et en région parisienne, via le basket aussi. Et c'est comme ça que je me suis aussi engagée dans les design basketball, où on a des bénéficiaires qui nous ressemblent.
On peut en parler, d'ailleurs.
Ouais. Bah, Ladies and Basketball, c'est une association où on utilise le basket pour être un levier socio-éducatif pour les filles et les femmes issues de quartiers politiques de la ville. Tout ça pour dire, en fait...
QPV.
Ouais, bah ouais, on est clairement dans un QPV. Et en fait, bah, c'est là où on voit beaucoup d'enfants issus de l'Afrique de l'Ouest. Et alors, c'est pas que de l'Afrique de l'Ouest naturellement, mais on a des parcours de vie qui sont similaires. Et justement, l'idée, c'est de montrer à ces filles et ces femmes qu'elles peuvent y arriver si elles en ont envie. Et bah, la preuve, c'est que moi, aujourd'hui, j'estime avoir réussi et j'en suis très fière. Et pourtant, je pense être née sous une bonne étoile, mais j'ai aussi cherché cette étoile et je cultive cette étoile au quotidien. Donc,
voilà. Et comment elle se sent, Kadiasso Tapilio, aujourd'hui?
Bah, aujourd'hui,
comment ça
bien.
Va dans sa vie, au quotidien?
Ouais, bah, toujours en retard, hein, à la base. mais non, elle va bien. Elle cherche de l'argent quand même, donc parce que ses clients ne la payent pas tout
ça
le temps.
Ça paye bien d'ailleurs, avocat ou pas?
Ouais, ça dépend des.
Pour ceux qui nous regardent, qui veulent peut-être faire ce métier, est-ce que
ça dépend des domaines. Clairement, en droit de la famille, c'est pas que ça ne paye pas, mais tout va dépendre du client qu'on a en fait, tout simplement. Moi, en droit des affaires, je pourrais dire que ça paye bien, mais mes clients sont des entrepreneurs, donc parfois ils n'ont pas d'argent. Mais aujourd'hui, j'ai appris aussi à dire non à des clients, parce que sinon, bah, moi, je ne peux pas payer mes meilleurs amis qui sont à l'URSSAF et les impôts. Donc, je n'ai pas trop le choix, quoi. Mais en vrai, il faut se créer un réseau, il faut se créer une clientèle. Une clientèle qui nous ressemble, je trouve que c'est pas mal, parce qu'on se sent bien dans le métier qu'on fait au quotidien. Et puis, faut pas... Moi, je sais que je cherchais à avoir beaucoup de clients pour être payé, mais finalement, on peut avoir des clients avec lesquels on s'entend bien et travailler moins, parce que maintenant, moi, je suis à mon compte et... Bah, j'arrive à gérer un peu les deux, quoi.
Et est-ce que, là, tu fais droit des affaires, est-ce qu'on peut changer de branche ou pas, se rediriger vers le pénal?
Bien sûr. Bah, j'ai un très bon confrère à moi que j'adore, qui s'appelle Sediba, que peut-être que vous connaissez.
Ouais, je connais de nom.
Bah, lui, il a un master en droit des affaires, mais il est devenu secrétaire de la conférence. Et secrétaire de la conférence, donc c'est 12 avocats qui ont la meilleure plaidoirie possible et qui sont pendant un an sur le terrain pénal. Et bah, maintenant, il fait beaucoup de pénal, même s'il aime beaucoup le droit des affaires, il fait les deux. Et vraiment, aller voir son compte, Sediba. Je lui envoie vraiment de la force. Il a un très beau cabinet avec Théodore Jean-Baptiste. Et franchement, les deux font de tout et on peut apprendre sur le terrain. Moi, j'ai aussi appris sur le terrain beaucoup de choses.
Et dans la société actuelle, comment tu te sens dans la France d'aujourd'hui? Cette France qu'on appelle coupée un peu en deux, cette France des extrêmes, comment toi tu te sens?
Eh ben, alors j'ai appris le terme de transclasse, transfuge de classe. franchement, moi, c'est un terme qui me saoule. Moi, je sais que je me sens bien parce que je respire, que je fais du sport. Maintenant, j'ai appris que j'avais quand même une notoriété. J'essaye de pas tomber dans les travers des réseaux sociaux parce que je suis trop sensible pour ça. Je disais justement hier à mes stagiaires qui sont devenus mes amis de toujours, en fait, depuis lundi, que ça me saoule les gens qui critiquent et je suis trop sensible par rapport à ça. Moi, j'essaye juste de transmettre, en fait, comme j'ai toujours fait, parce que je me dis que je suis encore très jeune. Et que l'idée, si on veut y arriver, on peut. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être audacieux. Et dans la société, bah, moi, je me sens comme celle qui galère à prendre le métro, celle qui galère à payer ses factures et que je me bats au quotidien pour pouvoir les payer, quoi.
De la politique, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui t'intéresserait pour le futur ou pas plus du tout, c'est quelque chose de totalement
non,
refermé.
Au début, je voulais faire ça juste pour faire plaisir à ma mère et pour montrer que j'existe, quoi. Même si c'est pas quelque chose qu'elle m'a dit ou qu'elle m'a inculqué. Mais je pense que j'en fais à mon échelle. Surtout, moi, j'ai envie de rester sur le terrain, être derrière un bureau et prendre des décisions, ça me saoule. Donc c'est pour ça que je me suis aussi installée à mon compte, c'est pour bouger tout le temps, quoi.
Et ça se passe bien ?
Ouais.
C'est compliqué d'être à son compte, peu importe le domaine en plus.
Ouais, c'est compliqué. Bah, moi, je défends des personnes qui sont aussi à leur compte ou qui s'associent et qui s'embrouillent. Moi, je fais que des litiges quasiment, donc c'est vraiment le droit de la hesse, comme je dis.
Et, c'est drôle, ça.
Ouais, franchement, et en plus, moi, ça me fascine. Là, en ce moment, c'est assez dur parce que déjà, j'ai pas pris de vacances depuis un certain temps. C'est dur en termes de trésorerie par moment parce que t'es dépendant de tes clients ou là, ou quand t'es en entreprise, tous les mois, t'as de l'argent qui tombe, peu importe que t'as eu des clients ou pas. Et puis, clairement, vu que moi, je fais des difficultés, je suis le premier réceptacle de mes clients et je fais un peu psychologie. Et comme on a pu voir Alexis et Jacques depuis lundi, on a quand même beaucoup de conférences téléphoniques où les clients, tu leur dis ça va, ils disent non en fait. Et là, pendant une demi-heure, ils te racontent tout et là, t'es « Oh, waouh !» C'est un peu dur, quoi. Mais en fait, moi, ça me passionne, donc je suis très contente.
Qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même aujourd'hui ? T'as l'air d'être une femme accomplie.
Ouais.
Qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même, à la femme d'aujourd'hui ?
À la femme d'aujourd'hui, merci de m'écouter. Merci de prendre son temps. Merci d'être avec... d'être en phase avec ce qu'elle est et que ça continue et que quand j'aurai des enfants, que je ne sois pas aussi dure avec eux comme je l'ai été vis-à-vis de moi-même parce que le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle, mais juste d'être chill, quoi.
Et avec tes parents, tes sœurs, comment ça se passe ? Ça va ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à eux aussi ?
Merci de m'avoir supportée parce que j'étais horrible. En fait, je suis quelqu'un qui en impose, je le sais. Je pense avoir beaucoup de charisme, beaucoup d'autorité, une autorité naturelle. On me l'a beaucoup reproché et je sais que je peux plomber l'ambiance. Merci d'avoir toujours été là et d'être toujours là, de près ou de loin, et de toujours me soutenir, en fait, toujours.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
De toujours manger du riz. Je rigole. Ma passion, le riz. Non, d'être celle que je suis aujourd'hui, toujours d'être aussi naturelle, aussi authentique. De ne pas avoir peur de la critique des autres et de continuer à slay, comme disent les jeunes. Ouais.
Ok, merci en tout cas.
Merci à vous. Merci.
Merci à toi, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
Moi aussi, c'est un honneur. Chaque fois, je me dis, mais il y a plein de gens qui peuvent être interviewés. Et moi, je suis là comme
Le parcours, il est inspirant, franchement.
Merci beaucoup.
Et on a aussi créé cette émission pour ça.
Merci à vous de transmettre aussi, on a besoin justement de personnes comme vous.
Et il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui peut-être aujourd'hui sont un peu perdus, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire.
Qui n'hésitent jamais à poser des questions.
Et merci à toi pour le partage de tout ça. On finit avec un jeu, j'ai l'habitude de finir avec un jeu avec mes invités.
Vas-y.
Je te fais des débuts de phrases et tu les complètes, est-ce que c'est bon pour toi ?
Parfait.
Être noir en France aujourd'hui, c'est ?
C'est banger, mais il faut le réaliser.
Être une avocate noire en France aujourd'hui, c'est ?
C'est très cool. Franchement, pareil, il ne faut pas se poser de questions. Il faut y aller.
Le racisme est une histoire de...
De toujours. Et qui continuera, mais qui avance petit à petit.
Le basket est pour moi...
Ma vie. Encore et toujours.
Si j'étais une basketteuse, je serais...
Je serais la star que je suis au quotidien.
Le Mali, pour moi, ça représente...
Ça représente beaucoup, mais j'ai beaucoup à découvrir et j'ai hâte de le faire.
Aller voir un psy, c'est pas...
C'est pas une honte, c'est une nécessité. Ça devrait être obligatoire, au moins une fois par an, comme pour aller chez le dentiste.
À celles qui doutent, j'aimerais leur dire que...
Ne doute pas, pose les bonnes questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, pardon. Pose les questions que tu veux et sois libre de le faire.
J'aimerais dire à ma mère que...
Je l'aime.
Si Guy était encore là, j'aimerais lui dire que...
Qui ?
Guy, t'en parles dans ton interview.
Guy, j'avoue. Ah là là, il y en a plein des Guy, c'est pour ça.
Guy qui t'a...
Mais ouais... qui m'a lancé dans le basket.
Exactement.
Eh bien, merci pour tout, parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui.
L'interview du jour était...
Banger, j'adore. Et j'aimerais tous les mercredis, s'il le faut, à l'heure, la prochaine fois.
Avec plaisir, on fera une émission spéciale pour ça. Merci à toi, merci à tes deux stagiaires.
Merci à vous.
On peut rappeler leur prénom ?
Jacques et Alexis.
Jacques et Alexis, je n'avais pas oublié, hein, c'était juste pour qu'elle leur rappelle.
Ouais. Ils ont des snaps et tout. Moi aussi d'ailleurs, j'ai des snaps sur les réseaux, je voulais pas le dire, mais je dis quand même, vas-y. Et
on peut t'ajouter sur Snap, enfin, les gens peuvent
ouais,
t'ajouter.
Ouais, ils peuvent, hein. Je crois que c'est Kadiatap aussi où je vais changer.
Kadiatap, sur Instagram, ouais. Pareil, Kadiatap.
Ouais, pareil, je reste.
LinkedIn, Kadiatotapili.
Oui. TikTok, Insta, Kadiatap.
T'es vraiment partout.
Ouais, je suis partout dans vos vies, je suis le serpent que vous voulez pas avoir, je suis.
Bah, merci encore une fois à toi. Merci aux deux DJ qui étaient à la réalisation. Un à la réalisation caméra, l'autre à la réalisation audio-son. Et bah, nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Passez une bonne soirée, faites attention à vous et encore une fois, profitez des vôtres.
Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.